Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dalle.
À Paris, un patronage voit le jour tous les 6 mois. Alors aujourd'hui, dans Ecclésia Magazine, nous allons parler de cette résurgence des patronages. Initialement, un patronage est un ensemble d'initiatives associatives destinées à protéger et à venir au secours des pauvres, à l'origine placées sous la protection d'un saint patron. Et par extension, le terme désigne le local où se réunissent les enfants ou adolescents qui en bénéficient. Alors nous allons parler aussi de leur utilité sociale et évangélique avec Nella Bipa, bénévole au patronage de La Fourche. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour à tous.
Également François Tranchant de la maison Ozanam, bien connu de tous maintenant. Bonjour François.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors peut-être pour débuter cette émission, j'aimerais qu'on donne un petit peu les contours du patronage. Qu'est-ce qu'un patronage, Nella Bipa? J'en ai donné une définition formelle, si je puis dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous qui êtes à La Fourche?
Alors le patronage, en ce qui concerne La Fourche, c'est une rencontre, tout simplement, tout d'abord. Notre fonction à nous, c'est en tant que bénévole, c'est d'abord de l'aide aux devoirs, mais ce serait vraiment résumé de manière un peu trop minimale ce qu'on fait. Le lundi, le mardi, le jeudi, on va chercher les enfants à l'école, que ce soit à l'école privée ou l'école publique.
Ouais.
Et puis on commence tout d'abord par un goûter. Parce que c'est comme à la maison, en fait, hein, le patronage. Quand on sort de l'école, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? On partage ensemble un petit moment de convivialité.
Un goûter.
Un goûter.
Important.
On se demande comment s'est passée la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des petits chagrins? Ceux qui sont contents, ils nous racontent quelque chose, une anecdote et tout. Et puis, après, on va faire du travail, hein, parce qu'on est là pour ça aussi. On fait les devoirs. On va se partager en classe, en fait. Chaque bénévole ou chaque animateur va prendre un petit groupe, une classe, une section. Et puis, en groupe, on va commencer à voir ce que la maîtresse a donné, comme devoir, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris. Et c'est l'occasion aussi de se rendre compte qu'il y a des difficultés pour certains enfants. Et ça se termine en fait, par un moment de jeu. Et le tout dernier moment, c'est la prière.
D'accord.
Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 valeurs dans le patronage. C'est joue, prie, aime.
Alors, peut-être, François Tranchant, justement, la maison Ozanam, c'est une dimension, a une dimension plus large, plus vaste, d'une certaine manière.
Oui, elle a une dimension plus vaste parce que... Effectivement, dedans, en son sein, il y a un patronage. Et puis, il y a aussi il y a un accueil de jeunes, le CEPIJ, qui accueille... des jeunes qui sont en voie de déscolarisation ou qui sont en difficulté. Et puis, il y a un accueil pour les familles aussi. Donc, on a plusieurs cordes à notre arc. Mmh. Et puis, en fait, c'est un lieu où les gens peuvent venir aussi, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, où ils sont accueillis de manière inconditionnelle. En fait, je pense que dans ce que Nella a dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette dimension de maison.
Oui.
C'est l'idée que chacun doit pouvoir trouver sa place quand il rentre à Ozanam, mais quand il rentre dans un patronage.
Et comment expliquer d'ailleurs, comme je le disais en début d'émission, qu'aujourd'hui les patronages, on a le sentiment, les patronages paroissiaux d'une part et les autres patronages d'autre part, les associations, éclosent comme ça, reviennent un petit peu au goût du jour, Nella. Vous sentez qu'il y a un besoin peut-être des parents, des enfants, des adolescents de se retrouver ailleurs qu'exclusivement à l'école ou chez eux?
En tout cas, bon, moi, en tant que bénévole, ce que j'y trouve, c'est que exactement, je sais où est ma place. En fait, on trouve une place. On sait qu'on sert à quelque chose, on aide quelqu'un. Et des fois, c'est que de l'aide ou devoir, mais c'est aussi une rencontre petit à petit. Par exemple, un enfant du CP, apprendre à lire, c'est très difficile. Au début de l'année, il vous regarde avec des grands yeux et tout. Il dit « Mais qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu es là à m'embêter ?» Et puis, à la fin de l'année, c'est le même qui vient avec une petite BD et qui vous dit « Regarde, Nella, j'ai perdu une dent. » Et on m'a offert cette BD, il rigole avec vous, il se poile en lisant les gags. Et c'est là que vous vous dites, c'est gagné, c'est une très belle chose. De même qu'un enfant qui va en CM2, en début d'année, il est comme toutes les autres années, il est très très calme ou turbulent, il est comme il est d'habitude. Et puis en fin d'année, il y a des questionnements qui arrivent parce qu'on sent que le collège arrive. Et il a peut-être dit à l'école, il l'a peut-être dit à la maison, mais il sait que dans ce temps-là, il va pouvoir venir et vous allez le sentir un petit peu chagriné ou quoi. Et c'est peut-être ça, en fait. Il y a peut-être cette volonté de leur côté, comme de la mienne, de se dire qu'on a une place et qu'on est là l'un pour l'autre. Donc peut-être que c'est ça, c'est ce lien, ouais. Le lien social hein, qui existe de moins en moins malheureusement hein, aujourd'hui, surtout dans les grandes villes.
Ouais. François Tranchant, vous souscrivez à cela, c'est effectivement une volonté aussi de renouer un certain lien social, de se rencontrer, de parler, c'est tout à fait la maison aux anames là.
Oui, oui, il y a cette volonté de lien social. Je pense qu'il y a aussi un cadre rassurant qui est donné. Je vois les accueils de loisirs avec leur taux d'encadrement dans l'école, etc. Par exemple, ça peut être 1 pour 16 le soir. Nous, on est plutôt à parfois 1 pour 1 sur l'accompagnement scolaire. Donc, dans l'attention qui va être donnée à l'enfant, le cadre est quand même plus rassurant et pour l'enfant et pour les parents. Et puis, je pense que ce qui attire aussi dans les patronages, c'est qu'il y a une école de la responsabilité.
Ouais.
Les enfants prennent rapidement des responsabilités sur les services, puis petit à petit sur les animations des jeux. Et puis, dans leur croissance, ils vont devenir les organisateurs des jeux, des grands jeux, et puis se préparer à passer leur BAFA. Il y a vraiment une croissance, un peu comme chez les scouts.
Ouais.
Et je pense que ça, c'est hyper important aussi, à la fois pour le jeune à qui on donne notre confiance, et puis pour les parents, parce qu'ils voient qu'un jeune qui part en sucette au collège, ou souvent au collège, le fait de prendre des responsabilités par ailleurs, ça l'aide aussi à se recadrer dans sa vie scolaire et aussi à la maison.
Donc ça permet un cadre et une responsabilisation de l'enfant.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on voit beaucoup de lycéens hein, qui viennent à 16 heures comme ça. Ils viennent nous aider, ils viennent passer un temps avec les enfants. Et la responsabilisation, elle est de tous les côtés hein, en fait. Hein. Il y a ceux qui vont vous aider à préparer le goûter, ceux qui vont ranger, et puis ceux qui viennent juste pour partager, en fait. C'est le plaisir d'être ensemble, hein, finalement. Et des fois, on a envie, mais moi, hein, des fois, je me suis au travail et je me dis, oh mince, je pourrais y être trop. Non, pas que j'aime pas mon travail, hein, j'adore le travail, mais c'est sympa aussi. D'avoir cet espace-là. Quand les parents récupèrent leurs enfants, il est 18h30, vous vous rendez compte, les devoirs sont faits et puis on peut passer un petit moment ensemble
bonheur,
avec ses enfants.
Pour les parents,
c'est quand même bien sympa aussi. On n'a pas toujours le temps, surtout en semaine, de leur consacrer du temps. Mais nous, on leur rend leurs enfants, ils sont détendus, ils sont heureux, ils ont passé une bonne journée, les devoirs sont faits. Donc c'est ça aussi, c'est sympa.
Et qui sont les bénévoles d'ailleurs qui composent le patronage de la Fourche? Ce sont des mamans, des papas, c'est vraiment de tout.
Il y a vraiment de tout. Il y a des lycéens, il y a des enfants qui sont passés eux-mêmes hein, par le patronage, mais il y a également des parents comme moi qui ont envie de s'investir. Il y a des animateurs, comme vous le disiez, il y a des jeunes qui passent leur BAFA et ça leur permet d'être comme ça avec les enfants. Mais il y a aussi des retraités, beaucoup d'accord. de seniors.
Et surtout des laïcs, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire des patronages, c'est qui est intéressant. De 1850 à 1950, il y avait une grande présence aussi du clergé, une volonté aussi spirituelle. On parlera du côté évangélique après. Aujourd'hui, François Tranchant, c'est vrai que les patronages sont chapeautés par les laïcs, surtout.
Oui, c'est vrai. Je pense que les prêtres sont tellement absorbés par leur tâche en paroisse qu'ils essayent de consacrer le maximum de temps qu'ils peuvent consacrer. Mais c'est surtout des laïcs qui portent les missions en patronage. Il n'empêche, j'ai un aumônier qui passe régulièrement le mercredi en particulier. J'ai un curé de paroisse qui est hyper investi, parce que c'est un peu son bébé aussi. Donc les gens ont la chance de pouvoir rencontrer, enfin les jeunes, les gens qui passent, etc., ont la chance de pouvoir rencontrer les prêtres au sein du patronage. Et ça, je pense que c'est quand même hyper important. Et ça fait partie aussi de ce cadre rassurant. Enfin, dire qu'on n'est pas une institution qui se donne une autorité à soi-même, mais qu'on participe aussi à la vie de l'Église.
C'est vrai que nous, on a une directrice qui s'est investie énormément. Elle a à peine une vingtaine d'années, Marine Voisin, mais elle fait beaucoup pour les enfants. Elle passe beaucoup de temps avec eux, elle s'investit pleinement. Et puis, il y a aussi le père, hein, Nicodème, qui est là. Le lundi, il n'est pas souvent là, il vient de temps en temps, mais le reste du temps, le mardi et le jeudi, il s'implique énormément. Et c'est vrai que les laïcs, ça aide aussi. C'est comme une famille, finalement. L'idée, c'est que chacun puisse trouver sa place. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a des seniors, mais qui passent du temps aussi avec les enfants, des mamies. Et ça leur fait du bien aussi.
C'est destiné à qui, d'ailleurs, le patronage aujourd'hui ? Plutôt aux adolescents, aux primaires, aux collégiens ? Ça va de quel âge à quel âge ?
Stricto sensu, ça dépend des patronages. Ouais. Mais pour moi, c'est destiné... Alors, à la Maison Zanam, c'est destiné... aux jeunes qui ont de 6 ans à... Après, les animateurs, parfois, sont un peu des jeunes aussi, oui. Donc 23-24.
D'accord. Donc, c'est assez large. Dans le cadre de la fourche, c'est surtout des petits élèves. Donc,
oui, on occupe d'enfants du primaire.
Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais revenir aussi sur cette notion d'aide aux enfants populaires, aux enfants pauvres aussi, qui ont des difficultés. Est-ce qu'il y a toujours cette dimension sociale, cette dimension d'aide aux plus pauvres, aux plus déshérités, ou est-ce que maintenant, il y a un brassage, je dirais, quel que soit le statut social, hein, François Tranchant ?
Alors, il y a un brassage qui se fait en fonction du statut social, mais on a des activités où on a voulu qu'elles soient absolument gratuites, les accompagnements scolaires en particulier, et qu'elles soient aussi non confessionnelles dans un lieu confessionnel pour pouvoir travailler avec ces populations. Alors, on a des jeunes qui sont primo-arrivants, qu'on accompagne dans leurs devoirs. Et puis pour travailler aussi avec les jeunes qui sont scolarisés dans les collèges du quartier, Balzac, Mallarmé, qui sont des collèges publics, ouais. Donc qui ont besoin d'être rassurés aussi sur ce qu'on fait avec avec les jeunes qui nous envoient. Donc on a ces activités qui sont vraiment destinées aux couches, je pense, les plus populaires, à des jeunes qui sont à 80% musulmans,
ouais.
Qu'on accompagne dans leur scolarité. Et là, par contre, on demande à des grands jeunes qui sont de la paroisse de s'investir. C'est les jeunes de l'aumônerie des lycéens, qui s'investissent, qui viennent le mardi et le jeudi pour faire cet accompagnement scolaire avec ces jeunes donc, qui sont de Balzac ou Mallarmé.
Néla, justement, sur cet aspect populaire, c'est toujours
présent. C'est vrai qu'au début, on pâtit des fois d'une image. Hein. On est dans une paroisse du 17e arrondissement. On a tendance à se dire qu'il y aura une couche sociale plutôt aisée. Et au contraire, le père Nicodème, au début, quand il nous a reçus en tant que bénévoles, il nous a dit « faites attention » parce que justement, c'est ce qu'on veut. On veut s'ouvrir à l'autre et on veut aller vers ces enfants qu'on ne voit pas. À deux rues de la paroisse Saint-Michel, il y a une maison de la Croix-Rouge, une maison des hébergement provisoire, et justement il nous a dit il faut aller vers ces enfants-là, il faut que chacun trouve un endroit pour se retrouver, pour qu'on puisse se dire que on va vers l'autre, c'est essentiel. Et effectivement je pense qu'il est là le combat en fait, hein,
oui.
De se dire que il faut essayer de briser un peu les idées, hein, qu'on a parce que moi personnellement j'habite à Clichy, je suis clichoise. Et je vois bien que les défis ne sont pas les mêmes. Mes enfants sont à l'école, effectivement, dans le privé, dans le 17e. Mais quand ils rentrent à la maison le soir, ils font face à d'autres questionnements. Il y a un maillage qui doit se faire. Mmh. Et c'est fondamental. Si le patronage peut aider à ça, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose.
Mmh. François Tranchant ?
Si je peux me permettre, oui. Ouais. En fait, on part aussi en camp d'été.
Ouais.
Et on emmène des jeunes qui vont partir. En fait, ces 14 jours de camp, ça va être leurs seules vacances. Moi, ça me frappe à chaque fois. Grâce à la Fondation Notre-Dame, on peut les emmener en camp. Mais me dit un jeune qui part en camp d'été et qui n'a pas d'autres vacances, qui va rester à Paris tout le reste de son été, c'est quand même préoccupant.
Mmh. Oui, non, bien évidemment. Ouais.
Mmh. Et puis l'an dernier, on avait même des jeunes qui partaient pour la première fois de leur vie en vacances. Ça m'a sidéré. Je pensais même pas qu'on puisse ne jamais être parti en vacances. Quoi.
Alors j'imagine après que dans ces camps d'été, que ça permet là aussi de créer quelque chose. Il y a des choses qui se créent. Ça n'est pas que du loisir finalement. Il y a aussi
des liens humains très forts, des amitiés fortes qui se créent. Et puis tout ça, c'est porté par une vie spirituelle aussi.
On va en parler justement de la vie spirituelle. C'est vrai que c'est intéressant car les patronages, du moins les deux vôtres, la maison aux Anames et le patronage de la Fourche, il y a donc ce lien avec la spiritualité chrétienne, catholique. Quelle démarche avez-vous, peut-être commencer par vous, François Tranchant. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de jeunes musulmans qui venaient à la maison aux Anames. Quelle est votre marge de manœuvre, justement, pour leur parler de Dieu, pour leur parler du Christ? C'est pas difficile, compliqué?
Alors, bah, nous, c'est assez marqué à la maison aux Anames, parce qu'il y a une croix, effectivement, dans l'entrée de la maison et la chapelle, et en plus, face à l'accueil. Donc,
on peut pas se tromper. Hein.
Ouais. Et souvent, on nous a dit oui, mais ça va être un obstacle. Les personnes d'autres confessions rentreront pas à cause de ça. En fait, on s'aperçoit qu'au contraire, c'est quelque chose qui rassure, parce que l'identité est marquée, on dit notre ADN, qui on est, et finalement, eh ben pour une famille musulmane, je dis en particulier pour les musulmans, parce que c'est surtout notre public, c'est un cadre rassurant à nouveau, parce qu'ils savent qui on est, ils savent à qui ils confient leurs enfants, et finalement, ça permet aussi d'avoir un dialogue assez fructueux. Là, pendant le ramadan, on a eu beaucoup d'échanges avec les jeunes, beaucoup d'échanges aussi sur ce que dit Jésus sur le jeûne et sur la prière. C'était hyper intéressant, hyper constructif.
Néla ?
Alors, je vais être honnête, hein, je ne saurais pas vous répondre vraiment sur cette question, puisque moi, ce que je fais, c'est j'aide les enfants pour les devoirs et je passe du temps avec eux et je regarde pas vraiment, je peux même pas vous dire s'il y en a qui sont catholiques ou pas catholiques.
Et vous disiez justement à la fin de l'heure ou de l'heure et demie du oui. patronage qu'il y avait une prière. Cette prière, elle est dite par tout le monde ou comment ça se
passe? Par ceux qu'ils souhaitent en fait. Ouais.
Il y a quand même une dimension spirituelle, même si elle est.
Et c'est un moment qui est vraiment très très joli. Parce que le père commence, on chante énormément, on applaudit, on tape des mains, mais il y a aussi le merci. Le merci, ça, c'est un moment, moi, je trouve ça toujours émouvant, parce que les enfants, au début, tout le monde pouffe, merci, merci pour la maîtresse, merci pour ceci, cela. Et ils rigolent énormément. Et puis, il y en a toujours un qui va ramener un petit peu le calme, le sérieux. Et ils disent des choses vraiment profondes qu'ils ressentent. Et ça, j'adore ce moment-là, moi, vraiment.
Donc, ça peut être aussi un éveil, bien sûr, humain, mais aussi un éveil spirituel, François Tranchant, finalement. Le fait de se retrouver et ne serait-ce que de parler de Dieu, de Jésus, de sa propre foi.
Ah, je pense, oui. Et puis, ça permet aussi à chacun de vivre son intériorité. Il y a des jeunes du CPI, je me suis frappé par ça, qui vont s'installer dans la chapelle et qui ont juste besoin de retrouver du silence. C'est pareil, c'est des jeunes qui sont musulmans et qui ont besoin de retrouver du silence, de l'intériorité. Et je pense qu'ils apprennent aussi à dialoguer avec Dieu à ces moments-là. Et puis je pense que ça permet de s'approprier, le fait d'échanger, ça permet de s'approprier intelligemment sa religion. Ça permet de dialoguer, de voir... les forces, les richesses des uns des autres.
Oui. Et puis c'est vrai qu'il y avait une question aussi qui se posait quand on évoquait les patronages, surtout à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Et c'est l'historien d'ailleurs, Feu Gérard Cholvy, qui avait écrit un livre en 1988, Le patronage ghetto ou vivier. On s'interrogeait finalement sur la dimension d'ouverture du patronage, on en a un petit peu parlé. Est-ce que ça ne regroupe finalement que des petits catholiques entre eux dans un milieu catholique fait par des catholiques? Ou est-ce que, bon, là, François Tranchant, la réponse est tranchée, si je puis dire. On a bien compris que l'ouverture était vaste. C'est vrai que c'est ça. Hein. Il faut éviter l'écueil du ghetto aussi.
Il faut éviter l'écueil du ghetto. Et puis, encore une fois, il faut aller aux périphéries. Enfin, si on dit de ne pas aller aux périphéries, c'est simple de faire un truc entre soi. Ça marchera aussi. C'est super, mais je pense que c'est fondamentalement pas notre vocation. Notre vocation, elle est de vivre dans la cité. Et par notre témoignage de vie, par le témoignage de vie des jeunes, etc., d'être appelant. Pour les autres jeunes, enfin, au-delà d'être Je pense qu'on est une pépinière de futurs talents pour la cité. Et puis, j'espère qu'on est une école de sainteté aussi.
C'est ça, parce qu'il faut bien vraiment comprendre qu'il y a ces deux dimensions au sein du patronage et surtout au sein de la maison aux Anam, qui propose, on va peut-être en parler un petit peu quand même avant la fin de l'émission, cette dimension donc d'évangélique, de sainteté, de prière, mais aussi sociale, d'utilité sociale et d'utilité. Public,
oui.
D'entraide.
Oui, c'est ça. Parce que sinon, on s'ennuierait, hein, je pense. Hein. Et l'entraide, elle n'est pas forcément économique, elle est aussi dans un chemin de vie. C'est celui qu'on veut dessiner, c'est celui qu'on veut transmettre à nos enfants. Et c'est là aussi que ça se joue, parce qu'un enfant, si vous commencez dès le début à lui expliquer qu'il a quelque chose à apporter, hein, que c'est à lui de trouver et que c'est à lui d'aller vers la friction, au contraire, plutôt que d'aller toujours dans le même sens, c'est là qu'on y arrive, il me semble. Mais bon, après, ce sont des valeurs humaines. Ça dépasse l'aspect religieux, parce que il s'agit de mettre chaque moment, que ce soit le temps de recueillement ou le temps des devoirs ensemble, mais au contraire de les imbriquer, de faire une philosophie de vie. Parce que l'idée qu'on essaye de leur transmettre, nous, trois fois par semaine, c'est que les grands aident les petits. C'est comme ça qu'on y arrive. Et,
c'est l'essentiel, d'une certaine manière. L'essentiel aussi de notre foi. François Tranchant, alors là je suis sur le site de la Maison aux Anam, un très joli site d'ailleurs, où il y a un dessin qui représente la maison aux Anam, en plein milieu justement qui se fond d'une certaine manière aussi dans le quartier dans le 17e arrondissement, avec cette croix qui est là. Et vous le disiez, c'est ça qui est intéressant, que à défaut de se cacher, de se recroqueviller pour faire plaisir ou pour avoir le sentiment de faire plaisir aux gens, pour ne pas les blesser dans leur foi, en fait, cette croix, eh ben, elle attire.
Ah oui, elle attire. Elle est vraiment objet de dialogue, objet d'échange. Enfin, en fait, on est aussi à côté de l'hôtel Ibis. Ouais. Et c'est étonnant parce qu'on a des gens... J'ai vu des gens du Mexique, du Chili, donc c'est pas que les habitants du quartier qui l'attirent.
Ils ont d'ailleurs s'interrogé sur cette maison un peu particulière.
Exactement, donc ils rentrent, ils peuvent visiter, on leur fait visiter à chaque fois en échange avec nos limites linguistiques. Mais c'est hyper intéressant que cette croix attire, que les gens franchissent le seuil de la maison, qu'ils aient aussi cette audace. Et qu'on puisse qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse échanger. Vous êtes qui? C'est souvent la première question qui est posée. Et puis voilà, ça permet d'échanger sereinement. Et finalement, en fait, souvent les gens nous disent là l'autre jour à la kermesse, j'ai été frappé parce que il y a un monsieur qui est rentré qui était un peu dubitatif.
Ouais.
Et en ressortant, il m'a dit, mais moi, vous savez, j'ai été baptisé, etc. Je n'avais rien demandé. Hein. Donc, en fait, finalement, les confidences, elles viennent de soi-même. Donc, je pense que cette croix...
Ça suscite vraiment la confiance, le débat. On est dans un lieu qui rassure aussi. On a parlé de ce côté rassurant. Et c'est vrai que dans un monde un peu comme le nôtre, on a besoin parfois de se retrouver dans des lieux rassurants tels que la Maison aux Anam ou les patronages qui environnent un petit peu la ville de Paris et puis en France aussi. Hein. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Alors justement, sur la Maison aux Anam, n'est là justement parler des valeurs. Des valeurs, vous... La Maison aux Anam, peut-être dire aux auditeurs qui ne le savent pas, s'inspire bien sûr du nom de Frédéric aux Anam. Peut-être quelques mots sur Frédéric aux Anam.
Alors, nous, ce qui nous a touché chez Frédéric aux Anam, qui est un grand catholique social, c'est que du 19e siècle, ce qui nous a touché, c'est qu'il partait de la lecture de l'Évangile avec ses amis. Et c'est de cette lecture de l'Évangile que naissait la mission. Et donc, pour nous, la lecture de la parole, et en particulier à la messe, c'est le lieu où on est unis entre responsables, c'est vraiment le lieu de départ de la mission, c'est le lieu où on peut se recueillir, on peut réfléchir ensemble, et c'est le lieu où, en fait, les projets vont germer, parce qu'on se retrouve aussi à la sortie de la messe, on échange entre responsables, et il y a plein de choses qui naissent à ce moment-là. Et donc, Frédéric aux Anam, il n'est que pour ça, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est parce que dans la paroisse, tout part à Sainte-Marie-des-Batignolles. Le père Olivier Théillard aime bien dire que tout part de la lecture des textes saints. et qu'ensuite, ça doit rayonner dans la mission. Donc, il y a des conférences Saint-Vincent de Paul, il y a cette maison aux Anames, il y a des catéchèses, du catéchisme, un groupe mariage vraiment très... très fort.
Oui, on voit d'ailleurs sur le site les différentes propositions, à la fois des consultations, des points écoute jeunes, l'halte des familles, même du conseil conjugal. Donc n'hésitez pas, si voilà, il y a quelques frictions avant l'été, d'aller à la maison aux Anames. Également des stages proposés. Hein, le club Dominique Savio, peut-être un mot sur ce club.
Alors le club Dominique Savio, c'est les collégiens qui viennent nous aider le mercredi après-midi. Et ouais. Donc c'est une bande de collégiens qui sont 7 cette année. Qui seront plus nombreux, je pense, l'an prochain, qui tournent les mercredis et qui animent les grands jeux.
Oui.
Et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est des collégiens qui ont tous des itinéraires différents, qui ne se seraient jamais rencontrés, je pense, que la vie a réunis dans ce club, et qui sont tous un peu blessés d'une manière ou d'une autre. Ce club Dominique Savio, le fait de prendre des responsabilités, ça a vraiment été une école de la confiance pour eux.
Ouais.
Donc,
Parce que c'est aussi finalement permettre aux jeunes, aux plus jeunes encore, d'avoir confiance en eux, de prendre confiance en eux pour être armés dans la vie aussi, avec des belles valeurs. Néla, est-ce que vous conseilleriez peut-être à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de ne pas hésiter à lancer un patronage dans leur paroisse, arrondissement?
À en lancer un, je ne sais pas, mais... Peut-être à participer, hein, ouais. S'ils en connaissent un autour d'eux. Parce que du temps, on en manque tous. Mmh. Des activités, on n'en manque pas. Par contre, si on a beaucoup à faire, peut-être on serait surpris de savoir ce qu'on peut faire déjà.
Et merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici parler des patronages, de la résurgence des patronages. Merci à vous.